plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Stallone et l'Amérique avec David Da Silva, Quentin Victory Lédier et Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Cette philosophie de vie, ça fait près de 45 ans que Sylvester Stallone la décline de film en film, depuis celui qu'il a révélé en 1976, Rocky, dans une autobiographie au long cours et à peine masquée, qui, cas unique dans l'histoire du cinéma, a offert aux spectateurs le vieillissement simultané d'un personnage et de l'acteur qu'il incarne. Autobiographie double qui plus est, puisque parallèlement c'est en Rambo aussi qu'on l'a vu se confronter sur 4 décennies à ses démons et à ceux de l'Amérique. Autobiographie multiple, à vrai dire, puisque même dans les nombreux films qui ne se rattachent pas à ces deux séries, l'acteur, mais aussi scénariste, producteur et parfois réalisateur, a toujours fait œuvre, charriant avec lui les mêmes thématiques et obsessions, quelle que soit la qualité, il faut bien le dire, très inégale, des opus où il apparaît. Des coups, il en a beaucoup donné, donc, mais il en a pris bien plus encore, en particulier de la critique en France, particulièrement au nom d'une lecture idéologique empreinte d'anti-américanisme et de ce qu'il faut bien appeler un mépris de classe, à la fois pour le genre populaire dont il est à l'origine, le film d'action, pour ses spectateurs, son acteur, star à part dans le paysage hollywoodien, et ses anti-héros, issus tous ou presque de la classe ouvrière. Or, si ce plan large s'inscrit dans la semaine spéciale de France Culture, commencée lundi dernier, l'élection américaine, un enjeu mondial, ce n'est pas parce que Donald Trump, comme avant lui Ronald Reagan, ont récupéré à leur profit les figures de Rocky et Rambo, mais bien précisément parce que les électeurs qui dans quelques jours vont faire basculer l'élection ressemblent au personnage stallonien et que revoir ces films sans préjugés et avec un regard dessillé nous en apprend bien plus sur l'Amérique populaire et sa philosophie politique que nombre d'analyses et de traités. C'est à quoi nous nous attacherons aujourd'hui dans Plan Large avec deux fins connaisseurs et exégètes de la geste de Sly, David Da Silva, auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, et Quentin Victory Lédier, qui propose avec Retour à Philadelphie une promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone. En fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet nous parlera d'une autre œuvre emblématique des années Reagan et de sa violence économique et sociale, Glengarry de James Foley. Nous aurons auparavant, dans le journal du cinéma, évoqué la nouvelle fermeture catastrophique des salles de cinéma, mais pour l'heure, chaussez vos baskets et enfilez votre jogging, c'est l'heure de votre entraînement. We'll be right back. aurez reconnu évidemment une des scènes les plus iconiques de la filmographie de Sylvester Stallone et du cinéma tout court d'ailleurs des 50 dernières années, la scène d'entraînement sur le Gonna Fly Now de Bill Conti, d'un boxeur amateur, un loser timide au cœur sur la main, aux yeux tristes, à la bouche tordue et à l'élocution empêchée dans les rues des quartiers populaires de sa ville, Philadelphie, scène qui finit, on le sait, sur la montée des marches du musée de la ville et ses bras levés en signe de victoire, une scène qui sera reprise et déclinée en de multiples variations dans tous les opus à suivre de la saga des Rocky, mais qui, précisément sans doute parce qu'elle est devenue iconique, cache sans doute la signification première de cette scène, Quentin Victory Lédier.
Oui, mais c'est vrai que forcément, c'est devenu un topos, comme on dirait en littérature, c'est-à-dire qu'on la retrouve, cette scène, après coup, hein, dans tout un tas de films, cette espèce de sommaire de petites séquences d'entraînement, avec évidemment la progression aussi, puisqu'il y a la reprise des entraînements vers le milieu du film, qui est très difficile, et puis on arrive à cette scène, évidemment, qui rassemble plusieurs jours d'entraînement, et on voit l'évolution, et on voit que le travail paye, en fait. Et c'est en ça que c'est vraiment le goût de l'effort, c'est une lapalissade, que je dis, mais vraiment d'aller au bout de quelque chose. Et c'est là qu'évidemment, il ne faut pas s'y tromper, que ce n'est pas qu'une question de mérite ou que ce n'est pas une question de héros extraordinaire. Non, c'est un héros qui en bave, qui revient de loin et peut-être même qui arrive de rien. Et bah, par son travail, il arrive petit à petit à se hisser, au moins arriver à monter ses marches, en fait, puisque c'est ça le symbole. Et forcément, ça fait toujours un petit peu frémir quoi, quand on le voit arriver en haut à la fin de cet extrait et qu'il est satisfait parce qu'il a réussi à monter ses marches.
Tout simplement, il a réussi à dépasser peut-être même l'image qu'il se faisait de lui-même. Et l'image, c'est important parce que ce qui reste beaucoup de Rocky et ce qui fait la couverture de votre livre, David Da Silva, c'est celle d'un boxeur victorieux, enrobé comme ça d'un drapeau américain, un symbole du self-made man qui se hisse au sommet à la force de ses poings. Or, précisément, à bien regarder ses films, ce qui le rend intéressant ce personnage, c'est que dès le début, c'est avant tout un loser et que si victoire il y a, c'est avant tout sur l'image très très déprécié qu'il se fait de lui-même, David Da Silva.
Oui, en effet, on a un personnage qui est un anti-héros typique du cinéma américain des années 70, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu désespéré, etc., qui ne croit plus dans le rêve américain. Et ce qui est intéressant avec le premier Rocky, c'est que justement, on a un anti-héros des années 70 qui va d'un seul coup croire à nouveau dans les mythes fondateurs américains. C'est-à-dire qu'on, est-ce que tous les Américains ont leur chance dans ce pays, c'est ce qu'on lui dit à un moment donné, le promoteur qui lui propose le combat contre Apollo Creed, et le personnage accepte, et c'est à partir de là qu'il y a un changement. Donc c'est assez intéressant, et en fait le personnage de Rocky, et je pense que même Stallone à travers Rocky, ce qu'il veut mettre en avant, c'est les mythes fondateurs américains. Donc que chacun a sa chance, tout le monde peut réussir en Amérique, etc. Et d'ailleurs, le quatrième film qui fait la couverture de mon livre, il reprend cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas opposé au premier en réalité. C'est-à-dire qu'on a encore le personnage de Rocky qui quitte l'Amérique de Reagan, qui est devenue une Amérique néolibérale, très axée sur le matériel, et il retourne.
On a le personnage de Rocky qui part en Union soviétique et qui retrouve comme ça en Sibérie un environnement qui rappelle l'Amérique du 19e siècle, des pionniers américains, donc on le voit s'entraîner dans la nature, voilà, couper du bois, etc. Et finalement, le personnage réussit à vaincre son ennemi parce qu'il a retrouvé comme ça l'esprit des pionniers américains. Et finalement, ce qui est intéressant avec cette saga, c'est qu'on a toujours cette idéalisation de l'Amérique et des mythes fondateurs américains.
C'est vrai que toute la saga peut se voir comme l'Amérique au miroir du personnage presque témoin de Stallone. Et le miroir, vous l'avez remarqué tous les deux, d'ailleurs dans vos livres respectifs, David Da Silva et Quentin Victory Lédier, le miroir c'est la grande figure récurrente, obsessionnelle dans la saga, Quentin Victory Lédier.
Alors oui, effectivement le miroir, mais parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que on est forcément seul hein, face au miroir. Et donc il y a quelque chose d'un peu de l'honnêteté, de la franchise, quoi qu'il en coûte. Mais pour revenir justement, parce que c'est une figure qui n'est pas un miroir ici, mais qui est un miroir un peu du spectateur, pour revenir sur ce que David Da Silva disait par rapport à la scène qu'il considère comme une scène vraiment de tournant dans le 1, la scène du promoteur, ce qui est vrai, hein, ce qui est tout à fait vrai, mais simplement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, parce qu'il y a cette réplique très culte, « Do you believe America is the land of opportunity ?» Et Rocky répond comme ça, oui, bon, yes, tout de suite, sans presque réfléchir. Et moi, c'est vrai que je l'analyse autrement. Je crois que c'était Jérôme Momcilovic qui l'avait analysé, lui, en disant que vraiment, il y croyait. Bon, et bien sûr, là, on ergote un peu, hein. Mais moi, j'ai l'impression ici, enfin, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est qu'une interprétation, bien sûr, mais c'est que finalement, c'est un discours scolaire. C'est-à-dire qu'il répond oui, parce qu'il peut pas, dans ces conditions-là, répondre non. Bien sûr qu'il peut pas dire j'y crois pas à votre truc, à votre slogan publicitaire, parce que c'est un slogan publicitaire. Ce qui m'a fait, en tout cas, penser à cela, c'est que cette scène se finit où il se tourne vers la caméra, il y a le promoteur qui est dans sa logorée comme ça, qui est en train de lui dire vous allez faire ci, vous allez voir, ça va être super, vous allez combattre Apollo Creed, et en fait il ne répond jamais s'il accepte ou non de faire ce combat. Et il nous regarde, alors après on peut aussi la chipoter, dire c'est peut-être pas tout à fait un regard caméra, parce que, mais en tout cas il est face à nous, et il ne répond pas, et là moi je lis beaucoup plus l'angoisse existentielle du personnage, qu'est-ce que je vais devenir, que... Ouais, ça y est, j'y crois, l'Amérique me donne ma chance. Moi, je crois pas que ce soit des films qui montrent que l'Américain moyen a sa chance, quoi. Ou alors, il faut définir chance, c'est-à-dire, on peut arriver sans doute à faire quelque chose, mais l'idée que tout le monde peut réussir en Amérique, je suis pas certain que ce soit vraiment le message. Mais bon, après, voilà, c'est deux écoles, quoi.
It's over, Johnny. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! It wasn't my war. You asked me, I didn't ask you. And I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting me, spitting, calling me baby killer and all kinds of vile crap. Who are they to protest me, huh? Who are they? Unless they've been me and been there and know what the hell they're yelling about.
It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now.
For you! For me, civilian life is nothing. In the field, we had a code of honor. You watch my back, I watch yours. Back here, there's nothing.
You're the last of an elite group. Don't end it like this.
Back there, I can fly a gunship. I can drive a tank. I was in charge of million-dollar equipment. Back here, I can't even hold the job. Fucking guard! Ah! What the
fuck? Oh. Just... Oh, God. Where's everybody? God, I can't... I had a friend, was the Air Force. I had all these guys, man. Back there, I had all these fighting guys. Who were my friends? Because back here, there's nothing. Remember the Air Force?
With his black headband, I took one of his magic markers, and I said it found. He mailed us to Las Vegas because we're always talking about Vegas and this fucking car. This is a red 58 Chevy convertible. He's talking about this car. He said we're going to cruise till the tires fall off.
Tout aussi iconique le monologue, enfin dialogue plutôt, avec le colonel Trotman à la fin du premier Rambo en 1982, signé Ted Kotcheff, qui énonce ce dialogue, ce qu'on a vu depuis le début du film, ou comment un vétéran du Vietnam revenu atteint d'un très sévère syndrome post-traumatique, comme on ne l'appelait pas encore comme ça à l'époque, est rejeté par la société américaine, qui refuse l'image de défaite qu'il trimballe avec lui, et qui rappelle par ses paroles comment il a été contraint de faire une guerre qui n'était pas la sienne pour mieux se faire conspuer à son retour par ceux qui ont réussi à échapper, eux, à la conscription, sans doute grâce à leur appartenance à une classe sociale autrement privilégiée, ce qui leur a permis de s'opposer tranquillement à la guerre sur les campus de leurs universités. Comment est-ce qu'une saga qui dénonce très clairement à ses débuts les conséquences des guerres de l'Amérique va-t-elle devenir, pour beaucoup de ceux qui la reçoivent, l'incarnation de l'impérialisme américain, David Da Silva ?
Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que on oppose souvent le premier aux autres films, avec justement dans le premier on a un loser qui face à l'adversité va se révéler beaucoup plus coriace que prévu. Donc d'ailleurs c'est un peu un personnage en miroir de Rocky, hein, parce que c'est un personnage aussi qui a été créé dans les années 70, etc. Donc il y a ce côté un petit peu anti-héros au départ. Et puis ensuite, bah dans le 2, dans le 3, c'est vrai que on a changé un peu de genre. C'est vrai que le 2, le 3 sont devenus vraiment des films d'action où on a un petit peu l'héros individuel qui part comme ça affronter des ennemis et qu'on a l'impression qu'il veut regagner, enfin qu'il veut gagner, se venger de la défaite du Vietnam. Et puis on a un petit peu, voilà, on a fait l'amalgame entre Rambo et puis Reagan, hein, parce que souvent Reagan reprenait dans ses discours le personnage de Rambo,
Donc on a fait un lien entre finalement une idéologie américaine impérialiste et puis le personnage, surtout qu'en période de guerre froide, hein, il affrontait beaucoup de communistes dans ses films, donc on a pensé que c'était une certaine manière un personnage qui mettait en avant le soft power américain. Donc voilà comment ça s'explique, même si Stallone s'est toujours défendu dans les interviews que c'était pas, qu'il faisait pas des films politiques, etc. Et que Rambo, c'était quelqu'un d'individuel et qui se battait d'abord pour lui, quoi. Et que jamais il se battait pour au nom de l'Amérique.
Ce qui est très étonnant quand même quand on regarde bien Rambo, et ça vous l'avez noté David Da Silva, c'est que c'est presque la figure de l'Indien qu'il reprend. Ses films tiennent beaucoup du western, ou en tout cas de l'homme de la nature qui avec ses flèches, etc. Et Rambo explique même qu'il a une généalogie indienne, et une des grandes attaques qu'il y a eu contre Stallone, c'est la question du racisme. Ça a été notamment le cas Quentin Victory Lédier pour la série des Rocky. Le premier Rocky a été analysé comme une revanche de l'homme blanc sur les combats des droits civiques. Il se bat contre un noir, il va finir par gagner. Or, évidemment, et jusqu'aux derniers opus de la saga, les produits dérivés, on pourrait dire, que sont Creed et Creed 2, la question est beaucoup plus complexe.
Oui, alors c'est vrai que c'est une chose qui revient dans énormément de livres, énormément d'ouvrages sur lesquels moi je me suis fondé pour faire ce travail-là. C'est une question que les gens prennent très au sérieux parce que je trouve que c'est aussi beaucoup à la mode, quoi. C'est-à-dire la relecture aujourd'hui de toutes les œuvres pour essayer de leur trouver un truc qui correspondrait vraiment plus à notre manière d'être. Parce qu'on est tellement parfait en 2020, hein, on est tellement prêt à tout affronter qu'il faut aller trouver dans les œuvres de tel auteur, de tel réalisateur, quelque chose qui n'aille pas. Hein, il faut reclasser. Et alors, cette histoire, évidemment, mais en plus, il y a des gens très sérieux qui écrivent là-dessus. Hein. Il y a cette image du noir, effectivement. Bon, bah, j'avais retrouvé des phrases dans le livre de David, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'universitaires aussi qui pensent à cela. Alors que, finalement, peut-être que oui, bah, alors, dès qu'il y a un noir et un blanc qui s'affrontent, dans ce cas-là, il y a racisme, quoi. Enfin, je veux dire, je caricature, mais c'est un petit peu ça, parce qu'il faut voir l'amplitude. Et ce qu'il faut voir, parce que Creed m'intéresse assez peu, je l'explique assez dans mon livre, je veux dire, je trouve pas qu'il y ait une grande légitimité à ses suites. Mais en revanche, le personnage d'Apollo, il devient absolument central à partir du 3, mais il est central déjà à partir du 1 et du 2, puisque bon, c'est celui qui l'affronte. Et puis surtout, la dimension reliquaire, c'est-à-dire que le short d'Apollo, au travers des... jusqu'à Creed, là, pour le coup, c'est une relique. Et c'est quelque chose qui est tellement extraordinairement important qu'on a l'impression que Apollo est une sorte de dieu pour Rocky. Donc, juste parce qu'ils s'affronteraient, il y aurait voilà, le blanc qui veut retrouver la domination blanche, je trouve ça un peu faiblard. Et puis après, évidemment, il y a Clubber Lang. Alors là, oui, là, il est montré comme un vrai gros méchant, mais je crois qu'on est dans le manichéisme, et pas, en fait, pas dans le racisme. C'est un gros méchant qui est vraiment pas gentil avec Rocky, mais qui en même temps, et je finirai comme ça, mais qui en même temps, d'une certaine façon, est ce que Rocky était au début. Donc, il mérite de gagner ce combat.
Voilà, il a la street credibility, on dirait aujourd'hui.
Exactement.
Shoot!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Sylvester Stallone avec David Da Silva et Quentin Victory Lédier. Arrête ou ma mère va tirer, vient-on d'entendre Stallone crier. C'est le nom d'un film resté dans la légende comme le plus mauvais qu'il ait jamais tourné. Il était signé Roger Spottiswoode en 1992. C'est une époque où Stallone essaye, comme son rival Arnold Schwarzenegger, de se reconvertir sans succès pour lui dans la comédie. Après l'improbable remake par John Landis de l'Oscar d'Edouard Molinaro, l'embrouille est dans le sac. On raconte même que c'est Schwarzy qui a piégé Sly en lui faisant croire qu'il était intéressé par le script. Mais précisément, contrairement à l'Autrichien qui a toujours parsemé ses films de blagounettes et de distanciation postmoderne, Stallone n'est pas bon pour faire rire Quentin Victory Lédier. Il ne fonctionne que quand il est premier degré.
Ben oui, alors je sais pas, peut-être qu'il faut lui laisser encore une chance, peut-être qu'à 80 balais il arrivera à nous faire rire, mais c'est un personnage, et d'ailleurs on le voyait dans les deux premiers extraits, enfin dans l'extrait pardon du premier Rambo, c'est un personnage qui est tellement attachant, enfin qui marche extrêmement bien dans le drame.
Qui pleure, il pleure beaucoup.
Pleure. Et là aussi c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est qu'il soit devenu cette représentation de l'impérialisme américain à gros muscles, alors que c'est sûrement dans les genres bodybuildés le mec qui pleure le plus et qui est, mais enfin, il brise le cœur complètement. Dans les Rocky, moi, chacun, je pleure. Rambo, cette scène qu'on a entendue tout à l'heure, mais c'est bouleversant. Et puis il y a un tas d'autres films, c'est de la sensibilité pure. En fait, simplement, comme il est très costaud, hein, c'est un peu comme son histoire de cerveau, hein, on a cru qu'il était bête parce qu'il était costaud. Donc là, c'est parce qu'il a tellement de muscles qu'on se dit non, il peut pas y avoir de sentiments là-dessous. Et donc là, oui, la blague, le second degré, tout ça, c'est pas...
C'est un homme qui pleure, mais c'est aussi un homme qui doute, David Da Silva. Moi, ce que je trouve très fascinant avec Stallone, même quand il se fourvoie, ce qui lui arrive, c'est que comme Rocky, il ne sait pas trop quoi faire de son succès, et voilà qu'il n'est pas très riganien, pour le coup, ni trumpien, il se rend bien compte du danger pour lui de l'embourgeoisement, d'où un besoin régulier de revenir à ses racines populaires. Il y a, chez Stallone, vous l'analysez fort bien dans votre livre, David Da Silva, une conception du monde et du cinéma qui appartient à une tradition politique qu'on retrouve, n'ayons pas peur des mots, de John Ford à Clint Eastwood, en passant par Frank Capra et King Vidor, le populisme américain qui n'a rien à voir, précisons-le tout de suite, avec la conception qu'on a du terme de notre côté de l'Atlantique, David Da Silva.
Oui, le populisme américain, c'est un concept qui est un peu spécial, parce que c'est vrai qu'en France, populisme, c'est un mot qui est très négatif, et ça ne l'est pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, on considère qu'en politique, il faut être populiste, dans le sens où on va œuvrer pour le bien de la majorité du peuple. Et le populisme américain, c'est une espèce d'idéologie, alors j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet, c'est une idéologie qui est ancrée vraiment dans le pays, hein. Et on pense qu'il y a toujours un homme qui peut, comme ça, représenter certaines valeurs positives et changer la société positivement pour l'ensemble de la population. Le représentant, souvent on dit aux États-Unis, ça peut être quelqu'un comme Abraham Lincoln en politique, hein, celui, un vrai self-made man, qui était bûcheron et qui est devenu président des États-Unis. Et puis on retrouve cette idéologie-là, un petit peu chez Stallone, la méfiance envers certaines élites, au sens large, qui peuvent être politiques, économiques, etc., et la mise en avant de l'homme du peuple, qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui a comme ça un bon sens populaire. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal, et c'est ce qu'on retrouve souvent chez Stallone, hein, parce que c'est d'ailleurs le titre de mon livre, c'est le working class hero, c'est celui qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui a comme ça une espèce de notion de justice en lui, et qu'il essaie de faire partager, et puis d'améliorer d'une certaine manière, parfois la société américaine à travers ceux qui l'entourent.
What's up, Fred? I mean, this doesn't make things very easy for me. I mean, this is a pretty big thing you're having here. The day after, I mean, how do you think
Freddy, what are you talking about?
This guy came to see me yesterday, this Mo Tilden from IA. He brought all these pictures and...
Freddy, that guy's had a hard-on for me for years. It's a personal thing. He is a scumbag.
Right.
You know how they recruited IAD? They catch you on the take, and they tell you you can either do time or join them.
Well, he knows you're no Superboy. I told him he's dead, Ray. I told him he's wrong about you, but... I'm the sheriff. I mean, I'm supposed to know what's going on. How do you think this looks?
Go on, Freddy. And don't think so much.
Ray, I can't go.
Freddy.
Ray.
Freddy.
I can't go. Go on.
Go on.
Sylvester Stallone et Harvey Keitel, c'est Copland de James Mangold en 1997, un film qui reste très d'actualité dans ce qu'il décrit des violences policières envers les Noirs et des efforts d'une police corrompue pour les dissimuler. C'était avant l'omniprésence des téléphones portables, voire encore ce qui s'est passé à Philadelphie cette semaine. Et c'est aussi le film qui a enfin permis à Stallone de trouver la faveur des critiques de cinéma à l'époque, parce que l'auteur semblait casser son image de héros bodybuildé avec ce shérif bedonnant et handicapé que personne ne prend au sérieux, que tout le monde considère comme un crétin absolu. Or, dans son souci de common decency, comme on dit en anglais, et comme disait Orwell, il est tout à fait stallonien, ce personnage, David Da Silva.
Tout à fait. C'est un personnage qui ressemble au fond beaucoup à Rocky. Hein. C'est quelqu'un qu'on considère comme un loser, etc. Et puis, dans l'adversité, à un moment donné, il va se révéler à lui-même qu'il est capable de lutter contre l'injustice, de se transcender. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Puis il y a un côté très Scorsese dans le film, notamment au niveau du casting. Comme vous l'avez dit, il y a Harvey Keitel, mais il y a aussi Ray Liotta et surtout Robert De Niro. Et donc c'est un film très intéressant. Stallone avait pris une dizaine de kilos pour le rôle. Il avait accepté un cachet très modeste. Il pensait réellement que ça allait être un tournant dans sa carrière, ce qui n'a pas vraiment été le cas, malheureusement, parce qu'il n'a pas reçu de récompense majeure. Et puis, le film n'a pas forcément très bien marché. Donc, ça a été le début de la traversée du désert de Stallone à la fin des années 90 et au début des années 2000.
Mais c'est vrai que le drame de Stallone, sans doute, mais c'est peut-être sa chance aussi, parce que c'est ce qui lui a permis finalement de faire œuvre comme acteur, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, comme scénariste, comme réalisateur. Parfois, c'est ne jamais avoir rencontré un grand cinéaste, contrairement à Schwarzenegger, par exemple. Il n'y a pas de James Cameron, il n'y a pas de John McTiernan ou de Paul Verhoeven dans la filmographie de Sylvester Stallone. Peut-être parce qu'il a toujours été trop interventionniste avec ses réalisateurs. On était la semaine dernière dans Plan Large avec Andrei Konchalovsky, qui avait connu quelques déboires avec Stallone au moment de Tango & Cash. Il avait carrément été chassé du tournage du film. Est-ce que c'est son drame ou sa chance, David Da Silva, de ne pas avoir eu cette rencontre privilégiée avec de grands cinéastes?
Alors, on va nuancer, parce qu'il a quand même travaillé avec John Huston et Norman Jewison, qui sont quand même deux grands cinéastes. Mais c'est vrai que c'était pas... Enfin, pour John Huston, c'est un film qui est très mineur. Et puis, pour Norman Jewison, j'avais discuté avec Norman Jewison il y a quelques années, et c'est vrai qu'il m'avait dit que bon, il voulait pas Stallone. De mémoire, il m'avait dit qu'il voulait Jack Nicholson pour le rôle. Et c'est le studio, et Stallone aussi, qui s'était imposé dans le projet. Donc, bon, ça s'était pas forcément super bien passé sur le tournage. Et puis ensuite, c'est un peu le drame de Stallone, c'est que c'est tellement une personnalité. C'est tellement quelqu'un qui, surtout dans les années 80, hein, qui avait quand même un ego démesuré, qui voulait vraiment contrôler tous ses projets, qu'évidemment, ça ne fonctionnait pas avec des cinéastes aussi à forte personnalité. Je pense notamment à William Friedkin. Il avait deux projets avec William Friedkin et ça ne s'est pas concrétisé parce que les deux ne s'entendaient pas. Donc ça a été le drame de Stallone, je pense d'une certaine manière. Et puis de l'autre, c'est aussi sa chance parce que on retrouve toujours sa patte dans sa filmographie, même dans des films très médiocres. Il y a toujours la Stallone touch, c'est-à-dire à un moment donné, il va imposer un dialogue où il donne une leçon de vie au spectateur. C'est je pense qu'on retrouve toujours dans sa filmographie cette volonté, à travers ses personnages, de donner une leçon de vie au spectateur qui le regarde. Et ça, on retrouve ça dans énormément de ses films, et même dans ses films mineurs. Je pense à Get Carter ou même Over the Top. Et il y a toujours cette volonté d'imposer un message au spectateur, une leçon de vie. Et donc, c'est à la fois sa chance, parce que c'est vrai qu'on a toujours retrouvé la patte Stallone, mais malheureusement, c'est un peu réducteur pour sa carrière, parce qu'on a l'impression qu'il s'est enfermé dans un créneau et que voilà, il aurait peut-être pu faire une carrière encore plus intéressante, d'une certaine manière.
Yeah, come on.
Love my girl.
Massacre final dans le dernier volet à ce jour de la saga Rambo, Last Blood, sorti l'an dernier et signé Adrian Grunberg. Un massacre dans les souterrains d'une ferme de l'Arizona qui recrée le terrain originel du Vietnam et ses pièges mortels. Le tout sur le 5-2-1 des Doors. On ne quitte finalement jamais trop les années 60. Avec Stallone, un massacre particulièrement gore qui pousse jusqu'au cartoonesque la fascination qu'a toujours eu Stallone pour l'hémoglobine et la chair déchiquetée. Stallone, je le cite, se justifie en disant, c'était dans une interview au Journal du Dimanche au moment de la sortie, « Mon intention était de choquer en montrant la réalité des atrocités du monde. Je hais, dit-il, le politiquement correct. Au cinéma, les super-héros sont trop aseptisés et on coupe les têtes sans bavure avec un sabre laser. » Mais il me semble tout de même, Quentin Victorin Lédier, que ça va plus loin que ça, cette fascination de Stallone pour la chair abîmée, déchiquetée, sanguinolente.
Alors, probablement, en tout cas la sienne, je pense que c'est ça qui serait intéressant de regarder, parce que bon, là, sur ce Rambo, pardon, une fois n'est pas coutume, mais au secours, parce que ça aurait dû s'appeler Taken numéro 8 ou 20, je ne sais plus à combien on en est, parce que ça n'a rien à voir, vraiment j'ai été un peu malheureux quand je suis allé le voir, parce que très bien, hein, moi ça me fait très plaisir de voir des méchants mexicains qui se font éclater, mais en l'occurrence je vois pas tellement le rapport avec Rambo, surtout que le dernier Rambo, celui d'avant, là, finissait on ne peut mieux. Après, effectivement, donc voilà, on va mettre de côté le fait que les Mexicains se font découper en rondelles, mais pour lui, effectivement, le corps, c'est celui qui absorbe les coups, qui les prend, c'est sa philosophie, hein, de Rocky, et c'est quand même quelque chose aussi, un message qu'on entend, qu'on remet peut-être pas souvent assez en avant, hein, c'est bien, mais vous l'aviez dit en tout début d'émission, hein, c'est combien on peut prendre en soi, hein, combien on peut recevoir de coups et continuer quand même à avancer. Il y a un truc, je me sens obligé de le dire parce que c'est une autre fascination chez moi, mais c'est vraiment le I'm still standing d'Elton John. En fait, je pense qu'ils auraient dû, enfin ils se connaissent, mais il a manqué quelques années pour que ce soit le thème de Rocky peut-être. Donc je trouve effectivement que cette question du I'm still standing, d'être toujours debout après finalement avoir reçu tout ce qu'il a reçu dans la figure, constamment, je trouve que c'est ça qui est joli. Donc le corps doit être capable, hein, c'est pour ça qu'il y a aussi ce corps volumineux, ce corps solide, il doit être capable d'assumer ça, mais en même temps, on le voit beaucoup dans les Rocky pour le coup, notamment au début du 5, c'est un corps qui s'écroule, c'est un corps qui tremble, c'est un corps qui n'en peut plus. Encore une fois, c'est une autre image de ce corps parfait, de ce héros indestructible, ça n'est toujours pas ça. Alors chez Rambo, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais parce qu'on s'éloigne en réalité de la figure de Rambo petit à petit.
Mais c'est vrai que Rambo, il a toujours présenté Stallone comme la version noire de sa personnalité, hein. C'est Rambo, c'est
moi avant le petit déjeuner et Rocky après, disait-il. Et il n'y a pas que Quentin Victory-Lédier qui a été un peu choqué, on dira, par ce dernier Rambo. Le film a été inévitablement accusé de rouler pour Trump en dépeignant des Mexicains violents et violeurs, et puis une frontière un peu trop facile à traverser. Or là encore, il me semble que c'est oublié que Rambo, dans ce film, s'affiche aussi en protecteur des immigrés latinos, dans une transmission de valeurs qui le rapproche, David Da Silva, sans doute, du Clint Eastwood de Gran Torino.
Oui, c'est vrai qu'on peut faire le lien entre les deux, avec ce héros vieillissant qui veut transmettre quelque chose à une nouvelle génération d'immigrés, ce qui est au centre de Gran Torino. C'est un immigré polonais qui prend en charge un asiatique et il lui apprend les valeurs américaines, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette filiation. Après, c'est vrai qu'on a fait le lien parce que Stallone et Clint Eastwood sont les deux grandes personnalités à Hollywood qui n'ont pas critiqué Trump en 2016 lors de l'élection. Alors Clint Eastwood a dit ouvertement qu'il avait voté Trump, notamment parce qu'il en avait marre du politiquement correct. Et Stallone, il n'a pas parlé du programme politique de Trump, mais il a mis en avant la personnalité de Trump en disant que c'était quelqu'un de bien, qu'il l'aimait bien, que c'était un personnage à la Dickens, etc. Donc le fait de dire ça durant cette période où quasiment tout Hollywood critiquait Trump, ça a fait de lui finalement un Trumpien. Donc le fait d'aborder le sujet du Mexique, même si le projet était très ancien, on avait parlé déjà de ce projet en 2009, me semble-t-il. Mais voilà, donc on a fait le lien entre les deux. Et puis c'est vrai que Clint Eastwood aussi a traité ce sujet des narcotrafiquants mexicains dans La Mule. Donc c'est vrai qu'on a fait le lien entre ce qu'ils avaient dit durant la campagne électorale et leur film avec ce sujet-là. Après, je pense que Stallone a sans doute été intéressé dans le programme politique de Trump, c'est le côté la défense de la classe ouvrière américaine. Je pense que ça a dû l'intéresser en tant que représentant des working class héros. Après, c'est toujours une lecture politique qu'on peut faire. Est-ce qu'elle est justifiée? Ça, c'est un autre débat.
Voilà. Quentin Victory-Lédier.
Oui, c'est toujours un peu le même problème, hein, c'est-à-dire encore aujourd'hui, d'essayer de faire dire quelque chose à quelqu'un qui finalement n'a pas véritablement pris parti. C'est-à-dire que, encore une fois, il vote bien pour qui il veut. Alors la première fois, on pouvait l'excuser. C'est vrai que s'il le refait là, la semaine, dans les jours qui viennent, c'est peut-être un peu plus criminel de sa part. Mais en même temps, ça le regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il raconte dans ses films, parce que finalement, on peut être un artiste, avoir ses opinions, et il les garde plutôt pour lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a cette récupération de Trump, parce qu'il récupère tout, hein, Games of Thrones, il récupère voilà Rocky, etc. Parce qu'il comprend rien en fait à ce qu'il récupère. Ça c'est quand même extraordinaire, mais ça le dérange pas. Mais ce qui est dingue, c'est que parce que je pense que David Da Silva a forcément raison, parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. Mais s'il y avait dans ce programme de Trump quelque chose pour la classe ouvrière, il y a pas très longtemps, il y a un de ses proches là qui avait démissionné, son ministre de la sécurité intérieure ou je sais plus quoi, qui disait vraiment que Trump c'était le gagnant et il était le gagnant envers et contre tout, c'est-à-dire qu'il va pour les gagnants, il veut servir les gagnants, et il se voit évidemment comme le gagnant suprême, ce que Stallone n'est pas du tout. Donc j'espère quand même que dans sa tête, Stallone il va se dire « je me suis peut-être planté », encore une fois il fait ce qu'il veut, mais dans un prochain film par exemple, parce qu'il n'a jamais fait un cinéma de gagnant, il a toujours fait un cinéma effectivement de petites gens. Et de petites gens qui se magnifient d'une façon ou d'une autre. Pas forcément en devenant champion du monde de boxe, comme dans Copland, par exemple, en retrouvant un peu de dignité. C'est pour ça que ce film aussi, il est merveilleux. Et c'est des choses qui sont à portée de main de chacun. Et là, on est vraiment dans un discours qui est humaniste, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, mais qui est très très loin de Trump et de tout ce qu'il représente.
Took us when I hit the ground. In the black, a dog has been beat too much till you spend half your life.
Merci David Da Silva, merci Quentin Victor Ilédier. On quitte Sylvester Stallone sur ce Born in the USA de Bruce Springsteen, de retour avec un nouveau disque cette semaine. Born in the USA, une chanson qui a connu les mêmes malentendus quand elle a été récupérée comme hymne patriotique par les Reaganiens et autres néo-conservateurs, alors que cette chanson raconte finalement la même histoire de vétéran du Vietnam que Rambo. Vos livres respectifs, Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière et retour à Philadelphie, une promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone, sont édités chez Leitmotiv, qui sort aussi un recueil de nouvelles de Jean-Christophe H.J. Martin, directed by Sylvester Stallone, réalisé par Sylvester Stallone, des nouvelles inspirées donc des films réalisé par l'acteur. Chez Leitmotiv toujours, deux de vos livres, David Da Silva, Le populisme américain de Griffiths à Eastwood et Trump et Hollywood 1, L'arrivée au pouvoir, à lire pour comprendre, entre autres, ce qui va se jouer mardi, quel que soit le résultat de l'élection. La programmation spéciale sur France Culture, l'élection américaine, un enjeu mondial, se poursuit notamment demain à 16h avec le rayon BD de l'ami Victor Massé de l'Épinay, qui se demandera avec ses invités pour qui voteront les super-héros cette année. Il y aura aussi, à partir de lundi, dans LSD, une série sur l'Amérique des écrivains français et mardi soir, une nuit américaine spéciale avec, à l'antenne, de grands entretiens avec des intellectuels et auteurs américains et sur les réseaux sociaux, à suivre un décryptage en direct du débat public américain accompagnant le vote. Toutes les informations sont sur franceculture.fr. Vous écoutez précisément France Culture et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma, un journal du cinéma particulier et bien triste aujourd'hui, puisque, comme d'habitude, nous avions prévu de vous parler de quelques-unes des sorties de mercredi dernier, comme l'ADN de Mai Wen, une vie secrète des Espagnols Juan Guarany, Aitor Arregui et José Marie Guenaga. On vous aurait aussi parlé du Bon Grain et Livré de Manuel Frézil, et puis du si beau premier film de Nicolas Maury, Garçon Chiffon, que France Culture, qui accompagne le film, avait présenté en avant-première mardi dernier au Majestic Bastille, devant une salle pleine, qui avait échangé avec bonheur et émotion avec l'acteur-réalisateur. Nous devions même l'entendre dans cette émission, et puis voilà, le couperet est tombé, et 4 mois après avoir réouvert avec difficulté, après le premier confinement, les salles de cinéma ont à nouveau éteint leurs projecteurs jeudi, après la dernière séance, sans que le président de la République ne l'ait mentionné une seule fois dans son discours, mercredi. Bonjour Martin Bidou, vous êtes distributeur, programmateur et exploitant de salles de cinéma au sein de la société Haut et Court, société, rappelons-le, qui depuis près de 30 ans a révélé et accompagné de nouveaux talents. Vous exploitez notamment des salles comme le Luxor et le Nouvel Odéon à Paris, l'Astrée à Chambéry et le Sémaphore à Nîmes, des salles qui, comme tous les écrans français, ont donc fermé à nouveau jeudi soir. Quel est votre sentiment aujourd'hui, Martin Bidou, et qu'est-ce que vous craignez pour le secteur?
Je cherche l'adjectif adéquat et honnêtement, je ne le trouve pas, c'est un tsunami. Non, mon sentiment, c'est un petit peu sentiment de résignation, parce que bien sûr, on comprend l'urgence sanitaire. Ça, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, honnêtement, c'est un peu le coup de grâce. On avait déjà un genou à terre. On avait fait tous les efforts pour rouvrir le 22 juin après 100 jours de fermeture et essayer de relancer la machine. Et là, ça vient un petit peu casser tous les efforts qui ont été faits depuis cet été. Parce qu'il faut savoir que le cinéma, c'est un marché de l'offre. On a rouvert assez tôt dans l'été à perte, puisque les films n'étaient pas au rendez-vous. Hein. Les distributeurs ont enlevé tous leurs films. Évidemment, les films porteurs ne sont plus là. Le cinéma américain n'est plus là. On savait qu'on rouvrait à perte. On a rouvert, alors un mois de juin à moins 90%, un mois de juillet à moins 70%, bon. Et petit à petit, on avait remonté une certaine pente, sachant qu'il fallait qu'on réamorce la pompe pour convaincre les distributeurs de remettre des films, si vous voulez, sur le marché. Et jusqu'à ces 3 semaines ou 2 semaines de la Toussaint qui étaient honnêtement très bonnes. Donc, on ressortait un petit peu la tête de l'eau. Ça nous permettait pas de nous dire qu'on était sauvés, mais on revoyait un petit peu le bout du tunnel et le public vraiment en salle. Moi, pour vous dire, au Luxor, la semaine du 21 octobre, j'ai fait 5000 spectateurs. La même semaine en 2019, on était à 6800. Donc on était que, entre guillemets, que, à moins 30%. Donc là, c'est vraiment le coup de grâce, alors qu'on se disait qu'on pouvait peut-être espérer une fin d'année correcte. Non, on fera jamais une année correcte, mais qui nous permettrait en tout cas de tenir l'hiver. Bon, là, on ne sait plus quoi. On ne sait plus.
On sait d'autant moins qu'on ne sait pas jusqu'à quand ces salles vont être fermées. Vous deviez, vous, par exemple, à Haut-et-Court, sortir le 18 novembre un film formidable, merveilleux, Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille, un film lui aussi, qui est accompagné par France Culture. Est-ce que la façon dont s'est passé le dernier confinement, c'est terrible de se dire qu'on a de l'expérience maintenant, et la façon dont les films ont été reportés, vous fait réfléchir à la façon dont vous allez, par exemple, c'est un cas d'espèce, accompagner la sortie, finalement, de ce film vraiment extraordinaire.
Bah, c'est tout le problème, c'est que c'est la visibilité. Comme je vous le disais, on a dû réamorcer la pompe cet été pour, rassurer les distributeurs. Alors, je dis on, c'est ma casquette d'exploitant. On nous dit 4 semaines, mais on ne sait pas trop si c'est 4, 5 ou 6. Enfin, bon, apparemment, ça sera réévalué. Donc, un distributeur a besoin de visibilité à long terme parce qu'on engage des frais, et notamment pour Gagarine, on engage des frais publicitaires et pour lesquels on a besoin d'avoir une certitude de sortir. Sinon, ces frais-là seront perdus. Donc, évidemment, Gagarine qui sortait le 18 novembre, la sortie est annulée puisque les salles seront a priori fermées le 18 novembre. Mais du coup, on peut pas comme ça décider de le mettre au mois de décembre parce que finalement je le mets quand le 9 décembre, mais est-ce que les salles seront ouvertes? Donc je vais reprendre une campagne d'affichage une semaine avant qui sera peut-être perdue. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui depuis les annonces la fermeture des salles jeudi soir, les distributeurs, évidemment, ont tous, on n'a pas encore toutes les annonces, mais j'anticipe un peu sur le fait qu'ils vont tous annuler leurs sorties. Alors évidemment, jusqu'au 1er décembre, mais probablement que les sorties qui étaient au 2 et au 9 décembre vont s'enlever parce que, sans visibilité, on ne peut rien prévoir. Et, c'est toute la problématique de notre marché, c'est qu'on a besoin un petit peu de prévisibilité pour rassurer les acteurs et notamment les producteurs, les distributeurs, même les réalisateurs. On ne peut pas dire à nos réalisateurs de Gagarine, on entend parler d'une réouverture. Si on réouvre, apparemment, il y aura quand même un couvre-feu. Alors, quel couvre-feu? Est-ce que ça sera le week-end? Moi, je ne peux pas dire à mes réalisateurs, vous allez sortir et vous jouerez que le jeudi à 14h et 16h, mais vous fermerez le week-end. Ils font des films pour être vus. Donc, malheureusement, je pense qu'on va peut-être repasser par une période un petit peu incertaine, avec peu de films, comme on l'avait vécu au 22 juin, à la réouverture. Et on devra réamorcer cette pompe et pourra arriver à convaincre que le marché peut atteindre une certaine maturité. Et ça va reprendre un peu de temps. Donc, les stop and go, comme ça, nous, c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est fatal. On a aussi un film jeune public chez Haut-et-Court le 16 décembre qui s'appelle Le Peuple Lourd, réalisé par Tom Moore. On ne sait pas du tout si on le maintient, si on l'enlève. Et je pense que tous les distributeurs sont un peu dans notre situation. Donc, après, nous, on a deux enjeux. Il y a un enjeu à court terme qui est notre survie, alors à la fois des salles, des distributeurs. Et là, cet enjeu-là, je suis en train de faire mes calculs. Je pense qu'en tant qu'exploitant, je fermais sur l'année, je perdais moins d'argent. Bon. Après, il y a un enjeu à long terme qui est la question des pratiques culturelles des Français. Et on n'a pas envie de laisser la place aux plateformes, on n'a pas envie d'être absent trop longtemps. Donc on a envie d'ouvrir. Il faut arriver c'est une équation à deux inconnues, il faut arriver à la résoudre, il faut qu'on survive cette tempête, mais sans ouvrir à perte. Moi, en tant qu'exploitant, je préfère fermer que d'ouvrir en semaine jusqu'à 18h et fermer le week-end. Je préfère fermer complètement. Donc après, c'est trouver le juste équilibre entre rester ouvert jusqu'à ce que ça soit supportable et pas fermer non plus trop longtemps pour pas laisser la place aux plateformes et à d'autres pratiques culturelles.
Eh bien, merci beaucoup, Martin Bidou. On vous souhaite bon courage. Tenez bon. On est avec vous et on est très impatients de retourner dans les salles le plus tôt possible. On reviendra sur cette question aujourd'hui sur France Culture dans le temps du débat de Raphaël Bourgois à 18h10, qui se posera la question de l'impact précisément du reconfinement sur la culture. Sur les écrans, ce week-end, il aurait dû aussi y avoir des rééditions en copie neuve et pas des moindres. L'Aventura de Michelangelo Antonioni, À bout de souffle de Jean-Luc Godard, rien que ça. Et puis ce film qui parlera à tous ceux d'entre nous qui subissent une certaine violence au travail, qu'on soit confiné ou pas.
A, B, C. A, always B, B, C, closing. Always be closing. Always be closing. A, I, D, A. Attention, interest, decision, action. Attention. Do I have your attention? Interest. Are you interested? I know you are, because it's fuck or walk. You close or you hit the bricks. Decision. Have you made your decision for Christ? An action. AIDA, get out there. You got the prospects coming in. You think they came in to get out of the rain? A guy don't walk on the lot lest he wants to buy. They're sitting out there waiting to give you their money. Are you going to take it? Are you man enough to take it?
Avant d'être le meilleur imitateur de Donald Trump dans le Saturday Night Live, je vous recommande son duo avec Jim Carrey, rejoint le débat Trump-Biden. Alec Baldwin, qu'on vient d'entendre, a motivé violemment en 1992 ses troupes de vendeurs de terrains immobiliers dans Glengarry. Glengarry Glen Ross, pour son nom complet, adaptation à l'écran de la pièce à succès de David Mamet, qui avait été créée à la fin du premier mandat de Ronald Reagan et avait reçu à l'époque le prix Pulitzer. C'est en 1995. Le film donc de 1992 est réalisé par James Foley, qui avait signé notamment auparavant le magnifique Comme un chien enragé avec Christopher Walken et Sean Penn, et qui s'est illustré plus récemment en tournant de nombreux épisodes de la série House of Cards et aussi, oui, les deux suites de 50 nuances de Grey. Glengarry, vous allez peut-être me détromper, Sophie-Catherine Gallet, marque aujourd'hui sans doute moins par sa réalisation que par son casting de haut vol, avec un Jack Lemmon qui avait remporté grâce au film la coupe Volpi de la meilleure interprétation au Festival de Venise, avec aussi un Al Pacino survolté comme jamais, mais aussi Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Pryce et donc Alec Baldwin, pour un film où on profère tellement de jurons que ces acteurs sur le tournage l'avaient rebaptisé Death of a Fucking Salesman, mort d'un putain de commis voyageur. Sophie-Catherine.
Oui, d'ailleurs, Juron qui exprime bien en fait la violence de cet univers où règne la loi de la jungle. Parce que Glengarry déploie la machine perverse donc d'un libéralisme poussé à l'extrême, où chaque personnage est pressé jusqu'à l'os, ce que souligne bien d'ailleurs l'extrait qu'on vient d'entendre. Blake, interprété donc par Alec Baldwin, y énumère violemment ce que les vendeurs doivent faire pour être les meilleurs et en l'occurrence ne pas être renvoyés, dans un lexique qui ne semble d'ailleurs s'adresser qu'à la part animale de l'homme. Ne jamais lâcher sa proie, être constamment aux aguets et surtout bien sûr ne jamais se montrer faible. Donc face à ce bulldozer qu'incarne Blake, on distingue dans le quatuor d'hommes deux personnalités bien opposées. Al Pacino, donc jeune loup aux dents acérées, et Jack Lemmon, son ancien mentor, vieil homme qui semble avoir dépassé depuis bien longtemps l'âge de la retraite, mais qui tente péniblement de rester à flot. Une fois ce paysage posé, intervient le drame. L'agence subit un cambriolage pendant la nuit et tous les employés sont soupçonnés. Et c'est là en fait que s'ouvre véritablement le film, qui devient même assez intriguant, parce que les protagonistes sont donc soudainement cernés physiquement par ces murs, au-delà desquels le monde semble ne plus exister, et surtout cernés psychologiquement par l'injonction au travail, par la suspicion, ce que soulignent aussi les mouvements de caméra qui les encerclent et les isolent. Ce huis clos permet alors de dépasser le schématisme qui caractérisait jusque-là ces cow-boys aux abois, et de les dessiner avec beaucoup plus de profondeur. Dans ce petit microcosme éphémère, les personnages s'échauffent de manière très attendue, dans un virilisme et une joute verbale constante, mais James Foley parvient à déjouer le cliché en dévoilant que la manière dont ils interagissent est une mise en scène qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Parce qu'alors, ces jeux de rôle provoquent une impression de dissociation du réel, une sensation d'absurde même, qui permet à un humour cynique de se développer. Et s'il n'était pas ainsi devenu si évident que ces jeux de représentation n'étaient justement qu'une façade, le spectateur pourrait se laisser fasciner lui aussi comme par un miroir aux alouettes. C'est ce que montre particulièrement bien l'interprétation magistrale effectivement de Jack Lemmon, fil rouge du film, lorsqu'il raconte dans une scène glaçante comment il est parvenu à convaincre des clients de signer à l'aide d'une manipulation psychologique qui n'est pas loin de rappeler la chasse à cour. Pendant ce récit, les mains de Jack Lemmon s'apparentent à celles d'un illusionniste. Elles bougent lentement, comme un serpent, avec une forme d'élégance. Elles attirent surtout le regard et détournent l'attention du subterfuge, comme le ferait un magicien, aidé aussi en cela par la voix basse et grave de Lemmon, qui en devient presque hypnotique.
Bruce, Harriet, what we have to do is admit to ourselves that we see that opportunity and take it, right? And that's it. Now we just sit there. I got my pen out.
Always be closing.
Oh, God, that's what I've been saying the old ways, right? Convert that motherfucker, sell him, make him sign the check. Now they got their money in government bonds. I said to myself, fuck it, let's go all the way, huh? The whole route. I take it and plat it out. 8 units, 82 grand, and I say to them, this is now. This is that thing that you have been dreaming of. You are going to find the suitcase on the train. The man walks in the room. That bag is filled with money. Harriet, this is it. And Bruce, I don't want to fuck around with you.
Donc effectivement, oui, cette voix qui est vraiment particulière et la manière dont Lemmon manie le langage et module sa diction qui deviennent alors le cœur du film. Son personnage se caractérise par un art de la tirade qui ne laisse presque pas de place à la respiration. Et si dans cet extrait, son usage de sa voix le montre comme un loup prêt à dévorer sans pitié, il fait deux usages différents de ses tirades sans respiration. Au début du film, lorsque pathétique, il implore son patron et tente de le manipuler en louvoyant, son élocution semble celle d'un homme en apnée qui joue sa survie. Plus tard, lorsqu'il débite cette même tirade face à des clients, alors cette absence de respiration se fait l'art de ne laisser au client ou au spectateur aucune place pour réfléchir ou pour se faire sa propre opinion. James Foley déploie donc dans ce film une critique acerbe de l'idéologie libérale en dévoilant ce qui permet à ce système de fonctionner. Le vase clos, la poudre aux yeux, le tour de magie et surtout l'art de la manipulation. Glengarry pourrait d'ailleurs presque se penser comme le préquel en fait d'un autre film sorti quelques années auparavant, en 1985, qui est le film Death of a Salesman et non pas Death of a Fucking Salesman de Volker Schlendorf, qui est un film adapté aussi d'une pièce de théâtre d'Arthur Miller pour le coup, qui relate la fin de vie d'un représentant de commerce. Renvoyé quand il cesse d'être rentable, il sombre peu à peu dans la folie. Dans Glengarry, ce qui guette s'incarne dans la manière dont s'ouvre et se clôt le film. Sur le générique de début, se font entendre en superposition à la musique les bruits de rails d'un train, auxquels répondent la dernière image du film, celle d'un train lancé à pleine vitesse dans la nuit, sur une musique de jazz entraînante. Le train, qui est un symbole bien connu du progrès et de la vitesse, semble alors devenir la métaphore de l'injonction au rendement qui pèse sur les protagonistes, dans une illustration de la politique du marche ou crève, qui, une fois la bulle éclatée, mènerait inexorablement au déraillement.
Hello, Mrs. Delgari? Yes, you requested some information about Rio Rancho properties.
Blue sky is smiling at me. Nothing but blue skies do I see. In the morning, there's bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds from now on. I never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly.
Merci Sophie-Catherine Gallet sur ce Blue Skies d'Irving Berlin, magnifiquement repris par Al Jarreau avec Wayne Shorter au saxophone, qui tient lieu de générique de fin au film de James Foley. On espère vivement que Glengarry sera encore en salle quand celles-ci rouvriront le plus tôt possible. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Mathieu Leroux. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, nous aurions dû vous parler de Fantastique à la française avec la sortie de la Nuée de Joss Filippo, mais voilà, le film sortira plus tard, on en reparlera plus tard, ce n'est que partie remise, d'une manière ou d'une autre, dans Plan Large, nous parlerons de cinéma, ça c'est certain. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture, dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.
I saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying in life. When you're in love, my heart they fly. Blue sky smiling at me. Nothing but blue skies do I see. In the morning, the bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds.
saw the sun shining so bright.